Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
Et vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire et auteur de Je ne marche plus aux éditions L'Archipel.
Livre Je ne marche plus que je vous montre, puisque nous sommes évidemment en Facebook Live et sur Twitter. Mathieu Orphelin, bonjour.
Bonjour à vous.
Bienvenue sur Sud Radio, 2 jours après l'attaque de la mosquée de Bayonne. On apprend hier que l'assaillant de 84 ans voulait venger l'incendie de Notre-Dame, ce qui laisse supposer un déséquilibre mental. Le climat reste inflammable dans le débat politique. Est-ce que vous diriez que cette attaque, c'est le produit du discours anti-musulman qui serait en vogue en France ?
Non, moi je pense qu'il faut faire très attention et que, notamment, c'est la responsabilité des hommes et des femmes politiques aujourd'hui, d'essayer de ne pas alimenter en permanence ces débats-là.
Je crois pour faire le buzz.
Non, mais moi je suis un peu effaré, inquiet aujourd'hui devant cette machine politico-médiatique, devant ces commentaires des uns et des autres, essayant de définir à chaque fois les responsabilités, oubliant d'ailleurs le travail de la justice. Là, on est face à un homme qui peut-être a des déséquilibres psychiatriques. L'enquête le montrera. Et je crois qu'il faut faire attention à ne pas chercher à chaque fois la surréaction. Là, on voit bien qu'on est sans doute devant quelqu'un plutôt du niveau du complotisme aussi. On voit avec ses déclarations sur le lien avec la vengeance de Notre-Dame. Donc voilà. Donc attention, bien sûr qu'il y a un climat global, qu'il faut chercher à pacifier au maximum, mais attention aux conclusions trop hâtives, ou à la recherche, là aussi, des responsabilités directes ou indirectes des uns et des autres.
Vous êtes député, mais hier, c'est le Sénat qui faisait l'actu avec le vote de la loi interdiction les signes religieux ostentatoires lors des sorties scolaires. Jean-Michel Blanquer a dit que cette loi serait contre-productive, elle risque d'être retoqué par l'Assemblée nationale. Vous êtes député. Allez-vous voter cette loi quand elle arrivera à l'Assemblée nationale ?
Évidemment non. Je suis fermement opposé à toute tentative de loi ou d'amendement visant à interdire pour les accompagnantes des sorties scolaires la porte du voile. Je crois que effectivement, ça ne serait en rien utile. D'ailleurs, nous avons voté contre il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, un amendement qui était présenté par le député républicain Ciotti. Je crois qu'il n'y a absolument pas besoin d'une telle loi. Là aussi, moi, ce qui me désole, c'est que depuis des jours, on a cette polémique sur le voile qui prend une place infinie dans tous les débats politiques, sur les chaînes d'infos en continu, etc. Alors que ce n'est en rien un problème majeur aujourd'hui dans notre système éducatif. Il y a plein de questions tellement plus importantes. Là, c'est instrumentalisé, bien sûr, par le Rassemblement national et une partie de la droite. Mais en tout cas, ça nous éloigne à chaque fois des vrais sujets.
Mais est-ce que le voile, c'est un symbole religieux ou politique pour vous ? Il y a une des signataires de la tribune dans Marianne de la semaine dernière qui dit « Moi, je suis contre le voile », elle signe la tribune, « mais je ne peux plus me promener dans mon quartier sans voile sans me faire insulter ». Ça pose question.
Ça pose question. Il faut lutter contre le communautarisme. Il faut effectivement faire république ensemble. Mais c'est une loi sur le voile pour les accompagnantes en sortie scolaire. C'est complètement à côté de la plaque.
Certains accusent le journaliste Éric Zemmour, entre autres, d'être responsable de l'attaque de Bayonne. Vous avez décidé de boycotter CNews. Est-ce que vous êtes contre la liberté d'expression ?
Non, moi, la liberté d'expression, c'est évidemment quelque chose de fondamental dans notre pays. Mais ce que fait Éric Zemmour depuis 3 semaines sur CNews n'a rien à voir avec la liberté d'expression. C'est des appels à la haine, c'est des discours clairement homophobes, c'est des discours qui visent à stigmatiser notamment les musulmans. Donc, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Je crois qu'effectivement, d'ailleurs, CNews a pris hier enfin une première décision qui est de ne plus diffuser en direct Éric Zemmour pour pouvoir éventuellement couper.
Il était face à Philippe Bilger des Vraies Voix de Sud Radio hier soir.
Ouais, non, ça permet de limiter une partie des dérapages, mais je crois qu'il faut entendre notamment l'ensemble des journalistes de la chaîne qui disent attendez, c'est pas ça le journalisme, c'est pas ça la ligne.
Mais sur la liberté d'expression, quand vous voyez Sylviane Agacinski qui ne peut pas s'exprimer dans une faculté à Bordeaux. Est-ce que c'est pas particulièrement choquant ?
Moi, ça m'a choqué, effectivement. Alors, il faut regarder les détails de ce qui s'est passé à Bordeaux. Mais effectivement, il faut faire attention à ne pas tomber dans une restriction de la liberté de parole. C'est très important. Il faut que chacun puisse avoir la possibilité d'exprimer. Encore une fois, je reviens à Éric Zemmour. Là, on est dans complètement autre chose. On est dans des appels délibérés à des discours hyper violents et à une volonté de polémique permanente pour la polémique.
Mathieu Orphelin, vous êtes usager du train ? Quand vous voyez la grève surprise à la SNCF qui continue et continue, vous êtes député du Maine-et-Loire, donc vous êtes impacté par le réseau Ouest où il n'y a qu'un TGV sur trois depuis maintenant
plusieurs
jours.
C'est très compliqué.
Est-ce que vous diriez que cette grève est justifiée ?
Je pense qu'elle n'est...
Grève d'abord, sans préavis.
Ouais, elle n'a pas été comprise par les citoyens. Je l'ai vu à Angers hier, j'ai pris le train. Effectivement, il y avait deux trains dans la journée, Angers-Paris, au lieu d'une quinzaine. Je crois qu'effectivement, ça a pénalisé beaucoup, beaucoup d'usagers pour des déplacements professionnels, pour aussi les déplacements de vacances, ce qu'on a une période de vacances scolaires. Oui, moi, je crois que cette grève, elle n'est pas compréhensible par les citoyens. Je dis aux agents du centre de maintenance des TGV, qui a quand même, cette grève, elle a paralysé tout le réseau TGV Atlantique. Je leur dis,
et
attention...
Et pas seulement les TER en PACA, etc.
Mais moi, je dis, cette grève, telle qu'elle était, et en plus pour un projet d'aménagement du temps de travail qui avait été retiré, entre-temps, par la direction, attention, elle n'était pas compréhensible. Et en plus, on est à un moment où, justement, le train retrouvait...
De la vigueur.
On a vu cet été les parts de marché, etc. On a besoin du train. Moi, je dis aux cheminots aujourd'hui, attention, des grèves comme ça, elles sont, à mon avis, pas forcément opportunes et en tout cas pas compréhensibles par les citoyens.
Les mêmes cheminots, Mathieu Orphelin, qui demandent le paiement des jours de grève. Êtes-vous pour le paiement des jours de grève ?
Non, dans cette situation-là, je pense que compte tenu d'une grève qui a été, entre guillemets, plutôt sauvage, déclarée, qui a paralysé une grève de quelques agents, si je prends le cas du réseau TGV Atlantique, je crois qu'effectivement, là, le paiement des jours de grève ne se justifie pas.
On va rester dans l'Ouest où vous êtes élu, mais un peu plus au Nord, direction Flamanville. Un audit indépendant a été rendu lundi au gouvernement sur l'EPR. Il devait être prêt en 2012 pour 3 milliards, il n'est toujours pas prêt en 2019. Maintenant, c'est prévu pour 2022, donc 10 ans après. 12 milliards 4 d'euros, est-ce que vous diriez que c'est un fiasco industriel et financier et commercial, parce qu'on ne le vend pas qu'en France en plus ?
Oui, bien sûr que l'EPR, dans sa phase de développement, là, s'est révélé un fiasco économique. On a un projet qui coûte plus de 12 milliards d'euros, 4 fois plus le coût initial, avec tout un tas de reports en permanence, comme il y a eu d'ailleurs sur l'EPR en Finlande également. On a des difficultés aussi anticipées en Angleterre, un coût économique très important. Donc oui, moi je crois qu'il y a une vraie question aujourd'hui d'inefficacité économique pour cette filière de l'EPR. C'est pour ça que je suis... très étonné que le gouvernement souhaite aujourd'hui, d'une certaine façon, trop rapidement relancer une série d'EPR.
Mais est-ce qu'il faut continuer à fabriquer Flamanville malgré ces 10 années de retard ? Ou arrêter malgré les milliards qu'on a déjà dépensés ?
À mon avis, compte tenu de là où on en est dans la réalisation de ce projet-là, c'est compliqué de l'arrêter à ce stade-là. On a déjà investi 12 milliards là-bas. Maintenant, je crois que ça doit nous inciter à quelle place du nucléaire demain dans le bouquet énergétique et électrique en France. Et est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de remiser dès les prochains mois et les prochaines années dans la construction d'une nouvelle série d'EPR ? Moi, je crois que, alors que sur la table, il y a un certain nombre d'autres scénarios, 100% électricité renouvelable, d'autres scénarios, je crois qu'il faut absolument qu'on investisse pour les prochains mois plutôt dans la maîtrise de l'énergie, dans le développement des énergies renouvelables. Il n'y a pas d'urgence à ce que le gouvernement décide dès les prochains mois, un plan de relance des EPR. Ce n'est pas ça l'avenir de la transition énergétique et électrique.
Vous êtes pour la sortie du nucléaire en France ?
En tout cas, moi, je suis pour qu'on arrive à baisser rapidement la part du nucléaire en France. Pour ça, il faut relancer massivement les efforts d'efficacité énergétique, de maîtrise de l'énergie, qu'on continue à développer les énergies renouvelables. Et du coup, on va pouvoir fermer, au fur et à mesure de tous ces progrès-là, les centrales nucléaires.
On va parler maintenant un peu de votre livre « Je ne marche plus ». Pourtant, vous êtes rentré dans le studio en marchant, donc il y a déjà peut-être un oxymore. Les combats pour l'écologie du député qui a quitté La République En Marche, c'est publié chez L'Archipel. Pour expliquer votre départ de LREM, vous avez déclaré « Je pars après avoir fait tout mon possible, mais nous ne sommes pas au bon rythme sur aucun des grands chantiers de la transition écologique et solidaire ». Hier, Christine Lagarde a proposé une politique monétaire verte, elle prend la tête de la BCE, et l'Allemagne a répondu par le biais de Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank, je vous le dis en allemand, « Nein », pas besoin de traduire. Est-ce que finalement la transition écologique, c'est pas seulement des mots ?
Non, au contraire, ça doit être une vraie volonté politique en France et en Europe. Vous avez raison d'ailleurs de citer l'échelle européenne.
L'Allemagne a dit un niet catégorique.
Oui, mais il faut absolument qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Bien sûr qu'il faut une nouvelle politique européenne d'investissement dans la transition écologique. Il faut dépasser les règles actuelles. Est-ce qu'il faut sortir les investissements dans la transition de la règle des 3% de déficit? Est-ce qu'il faut faire de la création monétaire spécifiquement pour favoriser les investissements dans la transition écologique? En tout cas, toutes ces questions-là au niveau européen et au niveau français se posent. La transition écologique, il faut qu'on la voie enfin en grand. Il manque en France chaque année 15 milliards d'euros d'investissement dans la transition. C'est de la responsabilité du gouvernement de pouvoir mettre en musique cette stratégie de transition écologique à la hauteur des enjeux.
Mathieu Orphelin, vous écrivez que vous avez buté sur les conservatismes. Qu'est-ce que les conservatismes ?
Cette transition écologique, si on veut vraiment limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à la fin du siècle, si on veut vraiment enfin s'attaquer aux atteintes à la biodiversité, il faut absolument multiplier les efforts par 3, par 5. On n'est pas du tout au bon rythme aujourd'hui, c'est ce que j'avais voulu dire au moment de mon départ, c'est ce que Nicolas Hulot avait dit quelques mois avant. Et effectivement, ça implique un changement d'échelle. Et les conservatifs, c'est par exemple les règles budgétaires. On est toujours à discuter de est-ce qu'on augmente les dépenses dans la transition de 1%, 2%, est-ce qu'on arrive à les baisser un peu, etc. Non, il faut enfin voir les choses différemment, s'affranchir des arbitrages budgétaires de court terme, parce que tous ces investissements dans la transition écologique, ils seront rentables, ils permettent plus de solidarité, ils permettent de préparer l'avenir. Et donc les conservatifs, c'est aussi les réflexions habituelles et les façons de passer habituelles, notamment par rapport
Mathieu
au budget.
Mathieu Orphelin, dans votre livre, vous parlez également du poids des lobbies. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les lobbies? C'est eux qui dirigent vraiment en France?
Non, ce n'est pas eux qui dirigent, mais par contre, ils ont une influence importante. Je raconte dans le bouquin comment, effectivement, au moment où on a essayé, d'ailleurs on a réussi dans la loi agriculture et alimentation, de restreindre l'utilisation des pesticides tueurs d'abeilles de quatrième génération, les néonicotinoïdes, effectivement, à ce moment-là, comment les fabricants de ces pesticides-là ont cherché à influer pour que mes amendements ne soient pas adoptés dans la loi, cherchant à développer leur réseau d'influence pour expliquer aux uns et aux autres pourquoi il ne faudrait pas voter mes amendements. Donc oui, il y a une influence trop importante des lobbies aujourd'hui sur la décision politique. Donc oui, il faut absolument mieux la réguler. Ça passe par une meilleure transparence des relations entre les lobbies et les politiques.
Dernière question, aujourd'hui la majorité est assez fracturée, la majorité de la République en marche. Est-ce que vous appelez des marcheurs à vous rejoindre ?
Moi j'appelle pas de marcheurs à rejoindre, chacun ses responsabilités, mais par contre il faut absolument effectivement que les parlementaires, et notamment les parlementaires de la majorité, permettent des avancées significatives, massives sur ces questions de transition écologique et solidaire. On doit faire beaucoup dans la fin du quinquennat. Il faut absolument changer d'échelle. Et oui, j'appelle tous les parlementaires, d'ailleurs, de tous les partis, à pouvoir concrétiser ce changement d'échelle. On n'y est pas du tout. Il faut accélérer. Il faut faire beaucoup plus. C'est ça qui doit porter, guider l'action des deux dernières années du quinquennat.
Merci beaucoup Mathieu Orphelin. Je rappelle et je le remontre que vous êtes député du Maine-et-Loire, ça on le savait, je ne le montre pas, mais que vous êtes auteur du livre « Je ne marche plus, les combats pour l'écologie du député qui a quitté la République en marche » et c'est publié aux éditions de l'Archipel.
Et vous continuez évidemment d'être en notre compagnie. Le sondage, lui, continue de marcher hein, sur Sud Radio, vous n'hésitez pas, puisque la question que l'on vous pose ce matin, soit sur la page Facebook de Sud Radio, soit sur notre site sudradio.fr, ou même sur Twitter, @sudradio. Sud Radio vous propose ce sujet. Voile, Jean-Michel Blanquer a-t-il raison de rejeter une nouvelle loi? Sur la page Facebook, vous dites non à 67%. À suivre, après le rappel de l'actualité de 8h, nous recevons dans C'est à la une, Christian Estrosi qui réagira suite au refus de la CNIL de la reconnaissance faciale à l'entrée de lycées entre autres niçois et marseillais. Il sera avec nous en direct.